Les ados au micro.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les ados au micro. Le lycée Lautois donne de la voix.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du racisme, des discriminations faites aux femmes, l'homophobie, la vie de quartier. Enfin, nous ferons un point sur le conflit israélo-palestinien.
Tout d'abord, nous accueillons Joy qui a travaillé sur le thème du racisme. Bonjour Joy, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais bien et vous ?
Ça va super.
Très bien.
Nous avons fait un micro-trottoir avec plusieurs élèves du lycée Lautois au sujet de la discrimination raciale.
Nous allons écouter un micro-trottoir.
Alors, pour toi, c'est quoi la discrimination raciale ?
Bah, c'est quand une race, elle est discriminée. Ouais, bah, ouais, du racisme. Mm-hmm. Quand, par exemple, les Blancs mettent un peu de côté les Noirs ou les mettent dans une case, quoi. Alors que tout le monde est pareil, au final.
Et pour moi, la discrimination raciale, c'est à partir du moment où... où quelqu'un reçoit des injures ou même est défini comme une personne inférieure par rapport à ses origines ou même d'où elle vient, de son ancien pays.
Bonjour, pour moi la discrimination raciale, c'est toutes les inégalités qui sont en rapport avec la couleur de peau, tout simplement.
C'est faire la différence entre des personnes selon leurs origines et leur... religion.
Et du coup, pour toi, comment on devrait lutter contre la discrimination raciale ?
Bah, on devrait un peu plus rassembler tout le monde et arrêter les stéréotypes déjà et mettre tout le monde, rassembler tout le monde et que tout le monde se parle entre eux,
s'accepter entre nous.
En vrai, c'est dur de lutter contre ça parce que chacun voit la vie d'une manière différente. Ça veut dire que on peut faire des mouvements collectifs, etc., des manifestations, mais c'est vraiment chaque personne qui doit prendre sur soi. Et réfléchir à ce sujet.
Je pense qu'il faudrait plus en parler dans les médias et mettre en place des luttes contre la discrimination et apprendre aux gens à accepter les autres.
Respecter les autres et se respecter soi-même.
Donne-moi un exemple de comment on pourrait rassembler les gens.
Pourquoi pas faire organiser quelque chose, une réunion entre tout le monde. Ou alors réunir tout le monde et pouvoir en parler, faire organiser une journée où on peut parler de tout ça.
Et d'après toi, comment on devrait lutter contre la discrimination raciale ?
En gros, il faudrait que tout le monde se respecte et qu'on s'accepte tel que l'on est pour que les autres puissent nous accepter tel qu'on est aussi.
Apprendre aux jeunes et même aux personnes plus âgées qu'il faut apprendre à vivre avec tout le monde et à accepter tout le monde.
Et as-tu déjà été témoin d'une personne qui avait subi du racisme ? Ou même toi, as-tu déjà été victime de discrimination ?
Alors non, j'ai jamais été victime de racisme, moi personnellement, et j'ai jamais vu personne être victime de racisme.
Moi, pas personnellement. Après, j'en ai jamais vu non plus. Mais après, c'est surtout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou même dans différents médias. Mais j'en ai jamais.
Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de ça. Des trucs banalisés, du racisme banalisé. Et du coup, c'est pas bien.
Oui, j'ai déjà été témoin. Après, c'est des choses qui arrivent quand même souvent, selon le lieu où on habite. Mais je trouve quand même que ça a diminué et qu'il y en a moins qu'avant. Et je pense que c'est quelque chose de bien, ça veut dire que les gens, ils changent et ils pensent différemment.
Et en tant que témoin du racisme, quelle était ta réaction sur le coup ? Comment as-tu réagi en voyant quelqu'un être discriminé par rapport à sa couleur de peau ?
Au début, c'est choquant quand c'est la première fois. Ça veut dire que tu essayes de réagir, intervenir par rapport à la personne. Mais quand tu le vois de plus en plus souvent, ça devient même... carrément banal, ça veut dire que tu continues à réagir, mais ça n'a plus le même impact qu'au début.
Et maintenant, nous avons été reçus par la CPE, Madame Céline Doyen. Bonjour, Madame.
Bonjour.
Nous sommes là juste pour vous poser quelques questions concernant un sujet de tous les jours, la discrimination raciale. Donc, on va commencer avec notre première question. Qu'est-ce que la discrimination raciale pour vous ?
Alors, la discrimination raciale, c'est de faire des différences entre, on va dire, les races, les différentes races d'origine de peau, de couleur ou pays.
Et d'après vous, comment faire pour lutter contre cette discrimination? Et vu que vous êtes CPE, on est dans le contexte du lycée. Donc comment faire pour lutter contre cette discrimination au sein du lycée?
Alors, proposer plusieurs choses déjà. Bon, travailler sur le respect. Hein, le respect de la règle, des gens, c'est, quelle que soit l'origine, quelle que soit d'où on vient, le respect passe par ça. Travailler aussi le vivre ensemble avec la mise en place de plusieurs actions au sein de l'établissement. Là, je sais que ma collègue, par exemple, Madame Gillet, met en œuvre des récréations d'ensemble. Ça permet un petit peu à tout le monde de se retrouver à un moment festif dans la cour et de s'amuser, tout simplement. Après la mise en place d'ateliers, d'activités au sein des groupes classes, on peut aussi passer par des ciné-débats dans l'établissement avec des thématiques précises. Donc ça, c'est plus un peu de notre côté. Je sais que les collègues enseignants travaillent aussi énormément dans leurs cours, sur les programmes. Il y a des programmes qui mettent un petit peu en place toutes ces choses-là. Donc voilà, surtout partir du respect, du vivre ensemble pour que ça fonctionne.
Et est-ce que le lycée a mis en place des mesures contre cette discrimination?
Alors, dans l'établissement, quand il y a des faits graves, on va dire du racisme ou des propos racistes ou irrespectueux, nous, en tant que CPE, on demande aux collègues enseignants ou aux élèves de nous faire un rapport sur l'incident, sur ce qui s'est passé. À partir de là, on reçoit l'élève, on engage ce qu'on appelle une procédure disciplinaire. Donc c'est une mise en demeure où on écrit que sur un document qu'il y a eu des propos, par exemple racistes, qui ont été tenus. À partir de là, on rencontre la famille 3 jours minimum après les faits pour que l'élève, entre le jour où on lui dit qu'il a fait une bêtise et 3 jours après, qu'il puisse un petit peu réfléchir à pourquoi, si c'est vrai, c'est pas vrai. On le reçoit après avec sa famille, on notifie sur un autre document sa version des faits, s'il reconnaît, s'il a pris conscience ou pas de sa bêtise. Et nous, en tant que CPE, après, on voit les chefs d'établissement, donc soit M. Audio Ramirez, soit M. Mallet, et on décide d'une sanction. Donc, il faut savoir que le racisme, de toute façon, est puni par la loi. Donc, ça, après, les personnes qui en sont victimes peuvent déposer plainte si elles le souhaitent. Nous, dans l'établissement, on peut aller sur des mesures disciplinaires d'exclusion ou de travail sur la thématique du racisme, par exemple, la création d'exposés pour que les élèves y prennent vraiment conscience des choses. Voilà un petit peu ce qui est mis en place dans l'établissement.
Et est-ce que avez-vous déjà été témoin du racisme ou vous-même victime du racisme, pas seulement au sein du lycée, mais même en dehors?
Alors, témoin, oui, forcément. Victime, non. J'ai cette chance de ne pas avoir été victime. Maintenant, oui, témoin, malheureusement, beaucoup, enfin trop, à mon sens, dans les établissements et sur l'extérieur. Hein. Maintenant, nous, sur l'établissement, on peut agir par des actions ou par des manières de penser, de travailler avec les jeunes. Sur l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué d'agir.
Et vous pensez qu'à l'avenir, il pourrait y avoir une journée au lycée dédiée pour la lutte contre la discrimination raciale?
Alors, ça tombe bien, il y a eu une journée le 17, donc c'était il y a 2 jours, la discrimination contre les LGBTphobies. Oui, de toute façon, toutes les bonnes idées, bonnes actions peuvent être... je trouve que c'est quelque chose d'important. Ça peut et doit, je pense, partir des idées des élèves. Hein, les élèves peuvent proposer, ils ont des représentants au CVL, d'un conseil vie lycéenne, donc élus. Hein, ils peuvent demander, par exemple, voilà, de faire la journée. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a peut-être une qui existe hein, officiellement, calendaire, mais ça peut être voilà, une journée aussi avec une thématique précise. Là, bon, pour les LGBTphobies, c'est les jeunes venaient habillés colorés, un petit temps dans la cour à la récréation, mais ça peut être aussi pour la discrimination raciale. Bien au contraire, ça met de la vie dans l'établissement et ça fait des moments un peu de rassemblement et de vivre ensemble, quelles que soient les cultures, les couleurs de peau, les origines.
En tout cas, ça serait mieux de le voir et ça serait super de voir tout le monde ensemble. Et pour finir, madame, en tant que CPE du lycée de la Haute-Oie, quel message pourriez-vous transmettre aux élèves et au personnel de service pour lutter contre le racisme ?
Aimez-vous les uns les autres, mais c'est assez bateau comme expression. La différence est dans la richesse, hein, de toute façon. Enfin, la richesse est dans la différence, pardon, je mâchais mes mots. Hein. Je pense qu'on apprend, on apprend énormément des cultures des uns et des autres. Je sais que moi, j'apprends beaucoup avec mes jeunes d'origine maghrébine sur, voilà, sur les cultures, sur la religion. Donc, je trouve que c'est, voilà, c'est important d'échanger les points de vue et de respecter les uns et les autres. Voilà.
Merci beaucoup, madame.
Merci à vous. Bon courage pour la suite.
Nous avons ensuite fait la rencontre de Monsieur Mallet, notre chef d'établissement, pour savoir ce qui est fait contre le racisme à l'intérieur du lycée.
Monsieur Mallet, nous allons vous demander qu'est-ce qu'est la discrimination raciale pour vous.
C'est un vaste sujet et qui n'existe pas que depuis aujourd'hui. Moi, j'ai une définition sur la discrimination raciale. C'est la mienne. Je pense que par rapport à ces faits de société, ce que je vais vous dire, ça va parler. Ma définition, c'est que le racisme, c'est le venin de notre société. Celui qui gangrène, c'est celui qui détruit.
D'après vous, comment lutter contre la discrimination raciale au sein de l'établissement ?
C'est un sujet très philosophique. Il n'y a pas que dans l'établissement, discrimination raciale. Je pense que dans l'établissement dans lequel vous vous trouvez, qu'il y a une certaine entente et que, en tant que chef d'établissement, je suis aussi responsable des valeurs qui sont véhiculées dans cet établissement. Je vous rappelle que le jour de la rentrée, quand je vous ai tous accueillis sans aucune différence du CAP jusqu'au BTS en amphithéâtre, j'ai insisté sur des valeurs qui rythme notre quotidien. Il y avait respect, tolérance, travail, vertu, etc., etc. Je pense qu'à partir de là, je veux dire que toutes ces valeurs, elles sont valables dans l'école, mais elles sont valables également dans la rue, à la maison. J'ajouterai également, parce que je me suis aussi posé des questions, les questions que vous me posez, c'est pas nouveau, je les ai eues aussi il y a 20 ans, et tout dépend de ce qu'on peut entendre par discrimination raciale. Couleur de peau, choix de vie, etc., etc. Un non-voyant, qu'est-ce qu'il perçoit ? Il perçoit que la couleur du cœur, que la façon également qu'il perçoit les choses, la façon de penser. Quand je ferme les yeux, je sais que je m'adresse à Josué, mais je ne le vois pas, je perçois. C'est ça aussi. La tolérance, c'est se dire également, je m'adresse à l'un ou à l'autre. Il faut aussi se poser des questions. Qui je suis, qui il est. Est-ce qu'on doit se limiter à une origine, à un choix de vie ? C'est une question également. Non. Et là, je vais mettre aussi en avant la mobilisation de tous les élèves lors des portes ouvertes pour accueillir les enfants déplacés venant d'Ukraine. Ça aussi, c'est symbolique. Donc, vous voyez, discrimination raciale, et là, on parle de l'établissement. J'ai eu à recevoir un jeune, je lui ai fait faire un travail sur la discrimination raciale. De racisme, ça fait mal, et parfois on va vers l'irréparable.
Si je comprends bien vos propos, vous avez donc déjà été témoin du racisme au sein du lycée ?
Pas réellement au sein du lycée, ça s'inscrivait dans un contexte. Le racisme, vous êtes dans la rue, vous allez le trouver, le racisme. Je pourrais citer des exemples. Mais dans le lycée, si cela arrive, il faut être vraiment vigilant. Et on ne peut pas... L'école de la République, c'est l'école pour tous. Et vous êtes un bel exemple, Josué. On vous a accueilli les bras ouverts. Même si parfois, il y a des obstacles à franchir. C'est ça aussi la vie.
Vu qu'on est resté dans le contexte du lycée, est-ce que, en tant que proviseur, il y a des mesures prises pour lutter contre cette discrimination raciale ?
Il peut y avoir des mesures extrêmes quand on a dépassé les limites du tolérable, effectivement.
Est-il prévu une journée dédiée contre les discriminations raciales au lycée ? Tout comme on l'a vu avant-hier, où on a dédié une demi-heure pour lutter contre l'homophobie. Est-ce que, à l'avenir, vous pensez qu'il y aurait aussi une journée comme ça au sein du lycée ?
Je vais renvoyer une question. Est-ce que vous assimilez discrimination raciale et ce qui s'est passé le 17, mardi 17, concernant la journée nationale de lutte contre l'homophobie ?
Non. Je n'assimile pas, en tout cas. Je demande juste s'il y aurait aussi une journée dédiée à la lutte contre le racisme au sein du lycée. Je n'assimile pas. Ce sont deux combats assez différents, mais on subit tous des discriminations.
Oui, ça, je l'entends bien. Comme je vous le disais précédemment, l'école de la République, c'est l'école pour tous. L'école ouverte à tous. Les actions qui sont menées dans l'établissement, également, on reçoit le consentement des élèves, il y a le CVL. Également, bon, la journée du 17, bon, je viens d'enlever la photo, le diaporama qui a été réalisé, qui est passé sur les écrans, a été fait avec les élèves du CVL. Si on désire mettre en avant notre engagement au niveau d'établissement, parce que je vous parlais d'établissement, les valeurs qui sont véhiculées, mais il ne faut pas oublier qu'on a un projet d'établissement. Et tout est écrit dans notre projet d'établissement. Cette année, j'ai dit à la communauté éducative, et je pèse mes mots, ça a toute sa valeur et sa dimension, communauté éducative. Hein. On appartient quand même à une communauté éducative. Essayons de nous projeter sur le lycée La Haute-Oie 2026. Vous voyez ? Et ça, c'est important. Si l'année prochaine, on désire mettre l'accent sur une journée de tolérance pour lutter indirectement contre tout ce qui est forme de discrimination, hein, parce que c'est pour ça que je vous posais la question entre mardi et puis le thème qui nous réunit. Oui, je veux dire que ça, c'est le rôle de tout le monde. C'est le rôle de tout le monde pour pouvoir s'accepter tel qu'on est, en fonction de nos origines, en fonction de notre choix de vie, etc. etc.
Pour finir, messieurs, nous allons juste vous demander en tant que proviseur, quel message pourriez-vous transmettre aux élèves et au personnel des services pour lutter contre le racisme ? Parce qu'on ne va peut-être pas se mentir, il y a certaines personnes au sein du lycée qui ont peut-être été victimes de cela, mais ils n'ont pas su s'y prononcer. Parce que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas facile à assimiler, pas très facile à accepter aussi. Et peut-être qu'ils ont gardé ça pour eux. Et au cas où il y aurait ce genre de cas dans le lycée que vous n'êtes pas au courant, quel message pourriez-vous lancer à tous les élèves et au personnel du lycée ?
Généralement, toutes les informations, elles remontent jusqu'à mon bureau et ensuite je gère en équipe avec mes collaborateurs. Alors, le premier message, le plus important, je vais encore redire, quelles que soient nos origines, c'est la vie. Ça, c'est ce qui est important. Quand on passe à côté d'un départ, quel que soit le départ, on peut prendre du recul par rapport à un vécu. Le plus important dans notre société, hein, avant tout, c'est la vie. Et il faut se poser des questions. Quand je me souviens avoir accompagné un jeune en fin de vie, On s'arrête à quoi ? À l'espoir. Et pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai quand même espoir, ne serait-ce qu'au sein de l'école, puisque c'est une micro-société, de continuer de cultiver cette culture de tolérance pour éviter que les uns ou les autres soient écartés. Avant tout, vous êtes ici pour apprendre, préparer votre avenir et vous accepter.
Merci beaucoup, Monsieur Mallet, et merci de nous avoir reçus.
Merci à vous deux.
Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu participer à cette interview.
Merci à toi, Joy.
Merci à vous aussi.
C'était Joy qui a participé à cette enquête sur le racisme. Merci beaucoup.
À présent, nous accueillons Margot et Zoé.
Bonjour à toutes les deux. Vous avez travaillé sur les discriminations faites aux femmes.
Oui, effectivement, nous avons travaillé sur les discriminations faites aux femmes. Donc aujourd'hui, nous sommes allés demander aux passants ce qu'ils pensaient de la discrimination faite aux femmes. Qu'est-ce que la discrimination faite aux femmes d'après vous ?
C'est ne pas ouvrir les mêmes métiers, avec des salaires moindres souvent.
Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de... Ça prend plusieurs bords, genre il y a plusieurs bords. Ça peut être autant dans le travail comme dans la vie de tous les jours.
C'est de réserver un autre traitement parce qu'on est une femme, que ce soit dans le monde du travail... Dans plein de domaines différents.
Avez-vous déjà subi des discriminations ?
Quand j'étais plus jeune, au niveau de ma corpulence et tout ça, oui. Oui, ça, j'en ai vécu, oui.
Je jouais au foot avec les garçons. Bah, je recevais beaucoup de critiques par rapport à ça, par rapport aux autres joueurs de mon équipe.
Avez-vous déjà été témoin de discrimination ? Et est-ce que vous avez réagi, oui ou non ? Et sinon, pourquoi ?
Oui, et... Enfin, ça dépend. C'est du contexte, en fait.
D'accord. J'ai pas été témoin directement, dans ma vie, en tout cas.
Selon vous, comment limiter les discriminations ?
Eh bien, éduquer les enfants beaucoup. Travailler autour des jeunes enfants, des familles. Moi, j'interviens dans une association d'aide à la parentalité. C'est là qu'il faut agir en priorité.
Et dans l'éducation. Enfin, moi, je sais que j'ai été éduquée. Pour moi, une femme, elle est autant... égal qu'un homme, c'est les gens qui doivent changer, c'est pas les choses qui doivent changer.
Bah c'est sensibiliser dès le plus jeune âge quoi. C'est l'école, enfin c'est l'école, les familles. Juste apprendre à accepter les différences. Ce sera un bon début.
Après avoir eu un avis commun, nous allons interviewer un surveillant et deux jeunes filles qui ont bien voulu participer à notre projet au lycée.
Nous allons interroger la première personne, donc voulez-vous bien vous présenter ?
Mais très volontiers. Donc, je m'appelle Loam Lamour, je suis assistant d'éducation au lycée de La Haute-Oie et j'attends vos questions.
Ah, sentez-vous touché par la discrimination des
femmes ? Alors moi spécifiquement non, mais effectivement dans mon entourage j'ai pas mal de, bah, du coup, de femmes qui se sentent soit incomprises au travail, soit des soucis avec leur mari rapport à tout, la charge mentale par exemple. Tout un tas de, comment dire, les soucis généraux en fait qu'on va entendre à chaque fois qu'on cite les problèmes qu'ont les femmes, donc au niveau de l'inégalité des salaires, etc. Tous ces genres de trucs-là, j'en entends assez régulièrement parler dans mon entourage.
Est-ce que vous faites partie d'une association ?
Alors, je ne fais pas partie d'une association, mais j'aide de temps en temps avec ma mère qui, elle, fait partie de l'association, les Robins d'Ébène. Donc, qui aide pour de la distribution alimentaire, de la distribution de vêtements également, de la récupération en friperie, etc.
Avez-vous déjà été confronté à une victime d'agression ou d'un traumatisme ?
Alors, plusieurs fois, dans plusieurs contextes, soit une personne de mon entourage qui venait m'en parler parce qu'elle se sentait mal rapport à ça, soit en vision directe, par exemple, donc ici on est à Amiens, on a le quartier Saint-Leu, le quartier des Bars, où il est très peu rare d'entendre des gars hurler au loin « Hé, fille, hé, meuf, hé, viens là !» ou ce genre de trucs-là. Donc ça, vu et intervenu une paire de fois aussi, donc avec des amis, etc., on voit, il y a une fille seule, il y a trois mecs qui la suivent. Bon, par contre, les gars, vous allez faire votre soirée ailleurs, sinon ça va mal finir, voilà. Les gars, ils s'en vont, ils vont faire leur vie. Et sinon, bah, donc en dehors de ça, non.
Que pensez-vous des lycéens qui font des gestes déplacés dans le lycée ?
Alors ça, par contre, c'est totalement inacceptable, évidemment. Dans ce genre de cas-là, le problème qu'on a essentiellement, c'est soit que c'est considéré comme innocent, puisque ça va, c'est encore des lycéens, c'est une main aux fesses, ça va, c'est pas dérangeant. Sauf que si, ça l'est justement, c'est le genre de choses qui doivent absolument pas arriver dans un établissement scolaire, ni ailleurs d'ailleurs. Et je pense que les mesures qui sont prises rapport à donc par exemple un élève va s'amuser pour rigoler à dégrafer le soutif d'une élève, ça passe généralement tu fais plus ça sinon tu te prends un rapport. Je pense au moins qu'il devrait se prendre une bonne claque sur les doigts avec les parents présents. C'est même si c'est quelque chose qui devrait t'attaquer plus tôt quand même, que arrivé lycée on devrait le savoir. Mais je pense qu'on devrait peut-être un peu plus attaquer ça quand ça arrive dans le milieu scolaire.
Avez-vous des conseils à donner aux femmes qui ont déjà vécu ça ?
En parler, c'est la seule solution. Malheureusement, pas toujours. Les femmes sont pas toujours. C'est encore trop. Ça, sont trop rarement écoutées. En parler, donc soit avec des professionnels, soit avec des proches, mais c'est malheureusement les seules solutions qu'il y a déjà, donc peut-être réfléchir sur un nouveau système, mais ça, j'avoue, j'aurais pas les clés.
Bonjour, je m'appelle Pauline Schroen, je suis en bac pro terminale au service.
Bonjour, je m'appelle Lali Bien-Aimée, je suis en bac pro commercialisation et services en restauration, en terminale.
Est-ce que vous trouvez ça normal que dans certains lycées, il y ait des shorts ou des jupes courtes qui ne soient pas acceptées ?
Pas du tout. Je trouve pas ça normal parce que chaque fille a le droit de s'habiller comme on veut. Enfin, c'est pas parce qu'on a un short qu'on est une... Comme les garçons disent, ça y est, il y a une fille avec une jupe, elle veut forcément coucher avec la personne. Ça y est, il y a une fille avec un short, forcément elle a envie de sexe ou autre. Donc après oui, dans des lycées c'est interdit parce que c'est privé, parce que c'est public ou des trucs comme ça, comme à Saint-Martin on doit avoir un costume, on n'a pas le droit de shorts, on n'a pas le droit aux jupes, mais je trouve ça très normal parce que chaque femme a le droit de s'habiller de sa manière à elle, enfin je trouve pas ça...
Moi non, je trouve pas ça normal non plus parce que pour moi c'est pareil du coup... Tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut. C'est pas parce que quelqu'un va mettre quelque chose de court que c'est forcément de la provocation ou autre.
Est-ce que quand vous portez des jupes ou des shorts, est-ce que vous sentez des regards ou des gestes déplacés envers vous ?
Oui, des fois on peut mettre des jupes ou autre et même si c'est pas court, il y aura toujours des regards ou des klaxons ou autre. Quoi que ce soit, en fait, on dirait que les hommes n'ont jamais vu quelqu'un en jupe. Et je trouve pas ça vraiment normal, parce qu'en soi, on s'habille comme on veut, quoi.
Est-ce que vous avez déjà eu des remarques d'hommes déplacés
Non, du tout. À part une fois en jupe, être sifflé en voiture par des gars qui passent en chaleur, quoi, comme je pourrais dire. Mais sinon, pas de remarques ou autre, parce que je suis habillée en jupe ou... Non.
Moi non, pas forcément, non, j'ai jamais eu de remarques là-dessus.
Avez-vous des conseils à donner aux femmes qui ont déjà vécu des remarques ou des gestes déplacés ?
Qui restent fortes, parce que c'est leur vie, enfin, peu importe ce qu'ils ont vécu, et qu'ils surmontent ça et que ils sachent que faut savoir que ils sont aidés, que on est solidaires et que quoi qu'il va se passer, toutes les femmes sont réunies pour aider les filles qui ont vécu ça.
Moi, je pourrais leur dire que ils fassent pas attention à ça parce que je me répète encore, mais ils s'habillent comme ils veulent. Donc en soi, les remarques des autres, on s'en fout, elles font ce qu'elles veulent, quoi. Si ça leur plaît, elles, tant mieux.
Merci de votre participation.
Merci de nous avoir accueillis.
Oui, merci.
Merci beaucoup, les filles.
À présent, nous allons faire une petite pause avec un essai de parier qui sera contre Asimiu, Steve et Joy.
Bienvenue à vous, les garçons.
Merci.
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 Vous pouvez y aller.
Alors, je vais commencer. Dans quel pays bronze-t-on pas de genoux ?
Je sais pas.
Au Népal.
Que fait une baleine quand elle a peur ?
Je sais pas.
Elle se cache à l'eau.
C'était une femme, il envoie un message à son mari pour lui dire que « Salut chérie, je suis enceinte ». Après l'homme, il répond « Super ». depuis que je voulais être papa. Après, la femme lui répond, enfin, tu vas pas être papa, mais plutôt tonton.
C'est un panda qui en avait marre de la vie, et un jour, il se panda.
Quel est l'arbre préféré des chômeurs?
Aucune idée.
Le boulot.
Comment on appelle une souris qui ne marche pas, qui ne boit pas?
Je sais pas.
Une souris d'ordinateur.
Où va Messi quand il se blesse?
Je sais pas.
À la pharmacie.
Qu'est-ce qu'une frite enceinte?
Je sais pas.
Une patate sautée. Wow.
Un homme demande à une femme dans la rue, avez-vous vu un policier? La femme répond non. Après, l'homme lui demande, donne-moi ton sac à main.
Les ados au micro.
Nous nous retrouvons après cette petite pause. À présent, nous accueillons Luc et Lisa pour l'homophobie.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour à tous. Nous sommes un petit groupe qui avons décidé d'aborder le sujet de l'homophobie. On a commencé par demander le point de vue à des lycéens.
Avez-vous été déjà témoin d'homophobie à l'école?
Non, je n'ai jamais été témoin d'homophobie au sein de l'établissement.
Avez-vous déjà été victime d'homophobie à l'école?
Non, je n'ai pas été victime d'homophobie car je ne suis pas homophobe.
Et sinon, qu'en pensez-vous?
Moi, je pense chacun est libre de penser comme il veut, de faire ce qu'il veut. Chacun a ses convictions, donc il faut respecter les convictions d'autrui.
Avez-vous déjà été témoin d'homophobe à l'école?
Au collège, en 6e cours de musique, des groupes d'élèves ont commencé à m'insulter, je dirais pas les insultes, mais j'ai réussi à m'en sortir, j'en ai parlé, puis après ça allait mieux.
Et du coup, que pensez-vous de l'homophobie?
Oui, l'homophobie, de toute façon, l'homophobie est punie par la loi, et l'homophobie ne devrait pas exister, qu'importe les endroits publics, donc les endroits scolaires, donc les collèges, lycées, ou même dans la rue en général.
Avez-vous déjà été témoin d'homophobie à l'école?
Ouais, dans les salles de classe, il y a souvent de l'homophobie, et je pense que c'est pas bon de le faire.
Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, vous amenez de ce que c'est?
Je pense que c'est pas bien de se moquer de ceux qui sont homo. Et je pense qu'il faut les respecter et chacun a le droit d'être du côté qu'il veut, entre guillemets.
Avez-vous déjà été témoin d'homophobie à l'école?
Non, je n'ai jamais été témoin.
Avez-vous déjà été victime d'homophobie à l'école?
Non, je n'ai jamais été victime d'homophobie à l'école, car je ne suis pas un homosexuel.
Que pensez-vous de l'homophobie? Avez-vous déjà une idée de ce que c'est?
Oui. L'homophobie, c'est pas bien, parce que tout le monde a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. On est dans un pays libre. Liberté, il y a la liberté, l'égalité, la fraternité. On est en France, on a la liberté d'expression. La liberté vestimentaire, on a le droit de tout faire.
C'est beau. C'est bon.
Après le milieu scolaire, nous passons maintenant au milieu sportif où nous avons interrogé plusieurs athlètes au sein du lycée.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, première question, est-ce que l'homophobie a sa place dans le sport?
Non, en vrai, il n'y a pas trop le droit parce que discriminer des gens dans le sport, déjà, ça se fait pas parce que le sport, c'est censé être un endroit où tout le monde s'est réuni. Donc, discriminer des gens parce qu'ils sont homosexuels dans un sport, c'est pas que je trouve. Je trouve que ça se fait pas, voilà. C'est un peu gamin.
Non, mais de toute façon, que ce soit dans le sport ou dans la vie en général, c'est pas quelque chose de très éthique, quoi. Mais dans le sport, c'est sûr que c'est censé être quelque chose de convivial où les gens s'entraident et tout, et le fait de discriminer.
Ça n'a pas sa place.
Je vois. Que pensez-vous du joueur du PSG, Idrissa Gueye, qui a refusé de porter un maillot aux couleurs du LGBT?
Après, si. Chacun a ses idées, sa façon de penser. Donc, s'il a refusé de porter un maillot LGBT, c'est peut-être parce qu'il ne voulait pas, mais ça ne veut pas dire qu'il est contre ça.
Peut-être qu'il est contre le fait de créer une communauté, c'est-à-dire de créer un drapeau et toute une communauté autour de ça. Et que peut-être que du coup, ouais, il a ses idées et qu'il veut peut-être les aider, mais pas à les aider à devenir une communauté via un drapeau.
Je vais voir. Voilà. Troisième question. Que pensez-vous des pays comme le Qatar qui n'accepte pas tout ce qui est LGBT dans les stades?
Bah, comme la première question, c'est sûr que ça n'a rien à faire dans le sport. Que la personne soit LGBT, que soit, ça peut être même via sa couleur de peau ou n'importe, elle est censée, c'est une personne qui a tous ses droits.
Comme nous pouvons le constater, les mentalités évoluent. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions.
C'était Luc et Lisa, merci beaucoup pour votre travail acharné.
Merci à vous.
À présent, nous accueillons Shaina et Wilson pour la vie de quartier.
Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous ?
Super, et vous ?
Super,
très bien.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre travail. Nous avons voulu savoir quelle image a le quartier de notre lycée, dans le quartier de la Haute-Oie. Nous avons donc interrogé ses habitants.
Nous allons vous présenter la ville de quartier.
Pour vous, quels sont les bons côtés du quartier ?
Alors les bons côtés du quartier, c'est qu'on est tous ensemble. Il y a plusieurs cultures différentes, plusieurs religions, plusieurs convictions différentes. Et on passe des bons moments ensemble, c'est bon délire, il n'y a pas de prise de tête, quoi.
Les bons côtés du quartier, c'est qu'on est tous réunis. Le quartier, c'est la famille. On dirait que le quartier, c'est une famille. Ciao, po.
C'est ça. Le bon côté du quartier, c'est tout le monde est sociable, familial. C'est le savoir-vivre.
C'est la solidarité entre la société sur Itouvie. Donc moi j'habite à Itouvie par exemple. Donc à Itouvie tout le monde se connaît, on y a le partage. Quand il y a quelqu'un dans le négatif, on le remonte en haut, dans le positif, quoi, vraiment on s'entraide beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup d'échanges.
C'est quoi votre endroit préféré au quartier et pourquoi ?
Ah ok, mon endroit préféré au quartier c'est genre Roland-Garros. Ouais. Cul-de-sac, parce qu'on se pose tous là avec les poteaux.
Mon endroit préféré, c'est en bas de chez moi, c'est où il y a tous mes amis, on se retrouve tous ensemble, on rigole, on fait des tours de vélo, du foot, etc.
Mon endroit préféré, avant, c'était le square. Avant, j'étais avec ma copine Sophia, qui n'est plus ma copine. On se promenait toujours là-bas, il n'y a que plein de souvenirs, des bons souvenirs. Donc, je n'oublierai pas ces souvenirs vraiment qui resteront gravés dans mon cœur, quoi.
La CAN est un groupe de personnes qui s'appelle l'équipe 80, qui organise une coupe de plusieurs pays africains qui viennent d'Amiens, et ça sert à rapprocher les gens, peu importe les origines, les religions, etc. Que pensez-vous de la CAN ?
Moi, je pense que la CAN, c'est une très bonne chose. C'est un moment sportif qui rassemble beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément en commun. On passe des bons moments, c'est du football et tout le monde est content.
Moi, je pense que la CAN, c'est une très bonne chose, hein, parce que ça permet de réunir vraiment tout le monde, toutes les nationalités, toutes les couleurs. Je pense que à la CAN, tu peux que passer des bons moments.
Moi, j'en pense que c'est bien et qu'il faut continuer de faire ça dans tous les quartiers. Parce que comme ça, ça réunit toutes les diversités culturelles. Et c'est important.
Avez-vous une ou plusieurs anecdotes sur le quartier ?
Oui, j'ai une anecdote. Donc, c'était pendant le Covid. Fallait pas sortir, fallait une autorisation pour sortir. Et il y avait la police. Donc, on a vu la police, j'étais avec deux copines à moi. Et là, on a commencé à courir. Moi, j'étais un peu fatiguée parce que je suis un peu grosse. Donc, ensuite, on a couru à fond. Et la police, elle nous a vus, mais il y avait notre action. Donc, elle s'est préoccupée de notre action et pas de nous. Donc, vraiment, on s'est entouré. Vraiment, c'était super, quoi. Ils nous ont pas chopé, quoi. Donc, super. Voilà.
Que pensez-vous des cités ?
Je trouve que c'est très convivial. On vit dans une... Comme une famille et tout. On sait beaucoup de choses sur les gens. On s'ennuie pas et tout. On fait des barbecues et tout. On se connaît tous. On est tous amis. On s'entraide entre nous et tout.
J'en pense pas grand-chose. C'est bien.
Moi, les cités, je trouve que c'est pas si dangereux que ça. Après, il y a souvent des personnes qui font certaines choses assez graves, mais en soi c'est des bonnes personnes. Je suis souvent avec eux, je traîne avec des gens de cité, ils sont très gentils. Moi, je trouve que c'est des bonnes personnes, enfin voilà.
Alors franchement, moi je trouve que les cités, elles sont très mal réputées. Les gens, ils voient trop mal les cités, sachant que en fait, en vrai de vrai, dans les cités, c'est qu'une ambiance familiale. Toutes les personnes dans les cités, elles se connaissent et ils sont solidaires entre eux.
Et que pensez-vous des médias qui déforment les images des cités ?
Je pense qu'ils ne peuvent pas tout savoir parce qu'ils n'y vivent pas, parce qu'il y a des préjugés dessus également. Voilà.
C'est pas très bien, parce qu'en soi, comme j'ai dit juste avant, les cités, c'est pas si mal que ça. Il y a des très bonnes personnes. Après, bien sûr, il y a souvent des bandits, des gens qui vendent des choses un peu illicites, illégales. Ouais. Mais en soi, moi, je trouve que c'est un peu bizarre.
Je trouve que c'est blasphématoire parce que en renvoyant cette image-là des cités sur la télé, tout ça, en fait, ça envoie une mauvaise image des gens qui y habitent et ils sont pris comme des terroristes.
Quelle est la différence entre ghetto et cité ? Il y a une différence pour vous ?
Franchement, ghetto, c'est vraiment des bidonvilles. Hein. Et cité, c'est comme en anglais, on dit city. Cité, c'est comme une ville, quoi. Enfin, voilà, quoi.
L'image de notre quartier était plutôt positive, comme vous l'entendez. Notre chef d'établissement, M. Mallet, nous en a parlé plus particulièrement.
Bonjour, je m'appelle Benamar Younes et je suis avec
Dominique Mallet, proviseur.
Pour vous, quels sont les beaux côtés du quartier ?
Les beaux et les bons côtés du quartier. Belle question. Alors je vais m'appuyer sur mon expérience d'aujourd'hui et d'hier. Hier, la notion de quartier, c'était l'endroit où les gens pouvaient se réunir et discuter. Pourquoi ? Bon, il y avait la télévision, mais ce qui était important, c'est que c'était le lieu de rencontre, le lieu d'entraide, le lieu de solidarité également, même si ça existe encore un peu aujourd'hui, mais plus comme avant. En fait, le quartier, c'était la grande famille, où tout le monde pouvait s'accepter, tout le monde s'entraidait, et tout le monde se disait bonjour.
C'est quoi votre endroit préféré dans votre quartier, et pourquoi ?
Je ne sais pas si j'ai un endroit préféré dans mon quartier. Alors, je vais prendre le quartier ici, de là où toi. Si dans la ville, quartier un peu sauvage, quartier populaire également, ça c'est important. Ou d'ailleurs, l'école, votre école a toute sa place. Et c'est comme ça qu'on est reconnu. Hein. On dit c'est le lycée, là où toi. Il y a d'autres quartiers également que j'aime bien. Par exemple, Étouville, je trouve que c'est un petit village dans la ville. C'est agréable également. Bon, je n'y vis pas, mais j'y passe quelques fois parce que mon médecin est à Étouville. Donc, pourquoi j'ai choisi Étouville ? C'est parce que ça me plaisait.
Que pensez-vous que le fait que les médias montrent pratiquement le mauvais côté du quartier ?
Ça, c'est facile. Vous savez, quand on veut montrer les mauvais côtés d'une personne, on désigne une certaine personne. Les mauvais points de certains quartiers, c'est facile, c'est ce qui permet d'attirer l'audience ou de vendre les journaux. Je ne suis pas favorable, c'est comme lorsqu'il y a un problème et on met une photo d'école. Je suis vraiment très partagé. Ce qui me gêne aussi, c'est que quelquefois, c'est plus facile de montrer les mauvais côtés que les bons côtés. Bon côté des habitants du quartier, bon côté également de ce que peuvent faire nos jeunes. Je prends exemple sur la Haute-Oie. Bon, j'ai des élèves, ils sont tous égaux pour moi et tous remplis de valeurs. Et quand ça ne va pas, on recadre les choses et on repart sur des choses plus constructives. Et quand on regarde bien ici, ne serait-ce qu'à la Haute-Oie, on a des sportifs de haut niveau, on a des élèves brillants dans les différentes classes. C'est ça qui fait le charme d'un quartier ou d'une école. Alors moi, je peux m'appuyer que sur les mauvais côtés. Hein. D'ailleurs, je serais en peine de vous citer certains mauvais côtés que j'ai pu observer. Ce qui me gêne, c'est que oui, effectivement, on ne sait que montrer ce qui ne va pas.
Et je vais vous parler de la CAN. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la CAN. La CAN, c'est un groupe de personnes qui s'appelle l'équipe 80, qui organise une coupe de plusieurs pays africains qui viennent d'Amiens. Et ça sert à rapprocher les gens, peu importe les origines, les religions, etc. La CAN, ça veut dire Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, que pensez-vous de la CAN ?
Toute association, association, je veux dire que c'est une association, la CAN, si elle a un rôle de rassembler, ça c'est important. Si elle a un rôle également de rassembler différentes personnes pour mieux se comprendre, mieux vivre ensemble, je suis tout à fait favorable. C'est l'objectif également de nous tous, c'est aussi mon objectif au niveau de l'école que je dirige. Ce n'est pas une école pour l'un, une école pour l'autre, c'est l'école pour tous.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous.
Au revoir. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous deux.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir à vous deux.
À présent, nous allons faire une autre pause qui sera dédiée aux anecdotes pour Assimiou et Aboubacar.
Bonjour.
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 Je vais commencer par une petite anecdote un peu sympathique. J'étais chez moi. J'étais chez moi tout seul. Je suis en train de taper un texte sur mon ordinateur. Ça faisait presque une heure que je suis en train de le taper. Et avant ça, un rentier était rentré avec son chat. Et quand je suis en train de taper mon texte, ce chat est monté sur le clavier et je ne sais pas comment a réussi à supprimer la page du texte que je suis en train de copier. Et par méga, j'ai même pas pu enregistrer quoi que ce soit, donc j'ai dû tout recommencer après.
Asmiou.
Ok. Moi j'ai une anecdote à vous rencontrer. Vous savez, je suis venu en France et je savais pas parler français. Et du coup, ils m'ont dit d'aller acheter un dentifrice. Mais nous, le dentifrice, c'est pour brosser les dents, en fait. Des pâtes, en fait. C'est pas de dentifrice, c'est une pâte. Ils m'ont dit d'acheter une pâte. Mais nous, des pâtes, c'est pour les dentifrices, pour se brosser les dents et tout. Mm-hmm. Et moi, je suis parti, j'ai acheté du dentifrice, je ramène à la maison. Ils m'ont dit non, c'était pas de dentifrice, j'ai dit des pâtes à manger.
C'était très drôle.
Merci.
Aboubacar, vous en avez une autre ?
Oui, j'en ai une petite autre. C'était vraiment au tout début, quand ma famille était à peine arrivée en France. Mon grand frère ne parlait pas un mot de français. Et quand il était en primaire, à chaque fois qu'un élève disait « bonjour » ou « au revoir », puisqu'il ne comprenait pas, il pensait qu'on l'insultait. Donc à chaque fois, mes parents étaient convoqués à l'école primaire parce que mon frère se battait tout le temps.
Assimiou, vous en avez une autre ?
Non.
Très bien. Merci pour votre participation.
Merci beaucoup.
Et Aboubacar, vous pouvez rester car on enchaîne avec vous.
En tout cas, vous deux, c'était très humoristique.
Sur le conflit israélo-palestinien. Donc voilà.
Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai invité une professeure du lycée Laotois, Madame Birdi, qui enseigne la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, AGGSP. Elle va nous expliquer un sujet d'actualité assez brûlant, les conflits israélo-palestiniens. Mais tout d'abord, un bref récapitulatif. Le conflit oppose différents belligérants qui sont Israël et la Palestine, mais aussi, plus indirectement, les États-Unis d'Amérique, l'Union de la Ligue arabe et pour un temps l'Union soviétique de 1962 à 1991. Ce conflit israélo-palestinien dure depuis plus de 73 ans. Dans ce conflit, il y a eu une alternance de guerres, affrontements larvés et de trêves. Mais plus récemment, le jeudi 12 mai 2022, la journaliste palestinienne tuée lors d'une altercation, Shirin Abu Alker, en Cisjordanie. Donc, Madame Birdi, pourriez-vous répondre à cette question qui semble toute simple et se révèle néanmoins compliquée ? Quelles sont les raisons de ces conflits ?
Alors, c'est assez complexe les raisons de ce conflit, mais on va essayer de faire simple. La raison principale, c'est la volonté de deux peuples d'obtenir un même territoire. Et ce territoire, c'est la Palestine. Donc la Palestine se trouve au Moyen-Orient. Il faut rappeler que c'est une terre effectivement donc un qui est très importante au niveau des trois religions monothéistes, puisque c'est, je dirais, la terre de naissance de ces trois religions, avec comme, je dirais, symbole Jérusalem. Jérusalem qui est une ville trois fois sainte, qui est effectivement donc sainte pour les musulmans, puisqu'on y trouve justement le dôme du rocher d'où se serait envolé Mohammed. On va y trouver le Saint-Sépulcre, donc le tombeau du Christ pour les chrétiens, et on va y trouver le mur des Lamentations, qui est ce qui reste du temple, enfin du temple de Salomon pour les populations hébraïques. Les populations se disputent un même territoire. Et je dirais que jusque 1945, en fait, la Palestine est occupée majoritairement par des populations de confession musulmane, mais progressivement, tout au long du XXe siècle, on a des populations juives qui, effectivement, donc, émettent le désir de fonder un État juif en Palestine, parce qu'elles sont persécutées, justement, donc, en Europe, et elles s'appuient sur ce mouvement nationaliste qui est né au XIXe siècle et qui s'appelle le sionisme, qui parle, effectivement, donc, d'une terre promise, pour reprendre les termes de la Bible, justement. Et donc, en 1945, lorsque la Shoah est révélée, avec l'ouverture des camps de concentration et l'ampleur, justement, donc, du désastre et du génocide, eh bien, les Nations Unies, qui ont en charge justement donc la Palestine, eh bien essaient de trouver un consensus entre les populations juives et les populations effectivement donc musulmanes sur ce territoire. Et ils proposent un plan de partage avec effectivement donc un point d'accord qui est que les villes de Jérusalem et de Bethléem restent sous effectivement donc sous le contrôle international. Alors le plan effectivement donc est rejeté. Parce que les populations, effectivement, donc les populations arabes musulmanes que de Palestine ou même des pays aux alentours, hein, eh bien, qu'est-ce que sont justement la Syrie, le Liban, la Transjordanie, l'Égypte, sont contre. Et de l'autre côté, justement, les populations juives acceptent, mais espèrent effectivement donc avoir une plus grande part du territoire. C'est ce qui va déboucher sur la première guerre israélo-arabe. On est en 1948-1949. Et cette première guerre israélo-arabe voit la victoire d'Israël, qui est donc proclamée État. Et en fait, progressivement, ce qui va se passer, c'est que le territoire de la Palestine disparaît. À la place, on a un territoire majoritairement donc de population juive qui prend le nom d'Israël en 1948. Et cette fois-ci, les populations justement palestiniennes de confession musulmane, eh bien, deviennent apatrides. Et apatrides, ça veut dire qu'elles perdent leur territoire, elles sont obligées, effectivement, donc, de partir en exil, et elles trouvent, refuge en Égypte, ou effectivement, donc, en Syrie, et aussi, effectivement, donc, en Transjordanie, ce qu'on appelle la Nakba, pour, effectivement, donc, les populations musulmanes, c'est-à-dire la catastrophe. Et donc, à partir de là, on a véritablement un conflit pour un maintien de territoire. Pour les Juifs, c'est garder le territoire israélien en l'État, qui correspondait à l'ancienne Palestine. Pour effectivement donc les musulmans, c'est une guerre de reconquête qui s'organise, retrouver effectivement donc leur Palestine, maintenant qu'ils sont devenus apatrides.
Comme vous avez dit, l'ONU a essayé de chercher des consensus entre ces deux États. Et je pense que nos auditeurs voudraient savoir pourquoi, malgré les accords et traités signés, le conflit reprend-il toujours ?
Alors, le conflit il perdure parce qu'on a eu tout au long, effectivement, donc, de ces guerres, parce qu'il n'y en a pas qu'une. La guerre débute en 1948, mais elle perdure encore aujourd'hui. Elle perdure parce que, je dirais que dans les deux cas, on a eu une forte, effectivement, donc, radicalisation. Et à chaque fois qu'il y a eu des dirigeants du côté des Palestiniens comme du côté effectivement donc un Israélien pour essayer de mettre en place une paix, ça a échoué parce que à chaque fois ils ont été assassinés. Je pense notamment à effectivement donc en 1977 lorsque l'Égypte essaye de faire la paix justement donc avec Israël, eh bien le dirigeant Anwar el Sadat est assassiné par un extrémiste justement donc musulman islamiste. Et de la même façon, du côté effectivement palestinien, en 1993, lorsque justement donc Yitzhak Rabin fait la paix avec l'OLP de Yasser Arafat, qui représente donc la Palestine, eh bien Yitzhak Rabin va être assassiné un petit peu après aussi par un extrémiste juif. Donc on a une radicalisation parce que forcément le consensus voudrait qu'on arrive à un accord, sauf que les politiques n'ont pas effectivement donc, hein, le même avis. Alors c'est la population civile qui paie les pots cassés, si j'ose dire. Et puis il y a aussi un problème, c'est qu'en fait c'est Jérusalem le gros souci, puisque Israël revendique la souveraineté intégrale sur la ville. Or effectivement donc, hein, les Palestiniens, les musulmans revendiquent Jérusalem-Est, où ils vivent, dans des quartiers, où il y a effectivement donc aussi l'esplanade des mosquées. Donc voilà, tant que le problème effectivement donc, hein, de Jérusalem ne sera pas résolu, ça va être compliqué. Et tant aussi effectivement donc, hein, que, il n'y aura pas une absence de radicalisation dans les deux cas, que ce soit par l'armée israélienne Tzahal et par le gouvernement qui a longtemps été mené par la droite nationaliste, le Likoud, il n'y aura pas effectivement d'accord. Sans oublier que les Palestiniens sont divisés. Parce que les Palestiniens ont deux territoires, la bande de Gaza aujourd'hui et la Cisjordanie, et ils ne sont pas effectivement donc gérés de la même façon, puisque vous avez effectivement donc l'autorité palestinienne qui effectivement donc est présente en Cisjordanie, avec effectivement le Fatah, qui est plutôt, assez consensuel, et par contre la bande de Gaza, qui est aux mains effectivement donc du Hamas, qui est un groupe effectivement donc islamiste palestinien, et qui lui ne reconnaît pas effectivement donc aucun des accords que la Palestine a pu signer avec Israël, et inversement. Donc en fait, c'est cette absence de volonté de dialogue, de radicalisation dans les deux cas, ce jusqu'au boutisme des dirigeants sans prendre en considération les souhaits des populations qui posent problème.
D'accord. Vous avez dit, ces deux États sont en conflit à cause de raisons politiques mais aussi religieuses. Ces deux États ont des alliés, surtout Israël, avec les États-Unis d'Amérique. Et quels sont les enjeux pour l'État israélien et la Palestine dans ce conflit ?
Alors, les enjeux sont pour moi triples. Le premier enjeu, pour reprendre sur les raisons, c'est un enjeu territorial. L'idée, c'est, voilà, pendant il faut quand même dire que le territoire, effectivement, donc israélien, s'est agrandi à différents donc, un moment des guerres israélo-palestiniennes, enfin guerres israélo-arabes, si on considère effectivement donc avant avec les voisins. Donc déjà effectivement donc en 1967, Israël s'agrandit d'un territoire qu'elle possède toujours, qui est le plateau du Golan, qui se trouve au nord effectivement donc d'Israël, qu'elle a pris à la Syrie et qu'elle détient toujours. Et dans ce territoire, il y a le lac de Tibériade, très très important, parce que ce lac de Tibériade alimente effectivement le fleuve du Jourdain, qui lui-même alimente la mer, effectivement, donc la mer morte. Et sur ce fleuve et dans ce lac, les Israéliens ont mis en place des barrages, et ils se servent effectivement de cette eau pour l'irrigation, qui est très importante dans la région. Il y a beaucoup de citronniers, d'orangers, etc. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de récupérer pas mal de territoires. Donc ils se sont agrandis avec le plateau du Golan, ils se sont agrandis avec la Cisjordanie, ils se sont agrandis avec la bande de Gaza et le Sinaï, et ça, ils ne le rendent à l'Égypte qu'après, effectivement, des traités de paix en échange de leur reconnaissance auprès du belligérant en 1977. Après, deuxième enjeu, c'est un enjeu politique, parce que en fait Israël veut absolument être reconnu par l'intégralité des pays, et ce n'est pas le cas, puisque l'ONU a longtemps effectivement donc essayé de jouer là-dessus, c'est-à-dire de proposer que Israël rende les territoires occupés, le plateau du Golan, la Cisjordanie, etc., en reconnaissance de la légitimité de cet État par effectivement donc ses voisins de la Ligue arabe. Alors ça a marché pour l'Égypte en 77. Ça n'est pas toujours effectivement donc le cas pour effectivement donc les autres belligérants. Et encore effectivement donc aujourd'hui, Israël effectivement donc n'est pas reconnu par tout effectivement donc toute la communauté internationale. Et puis le dernier qu'on oublie souvent, qu'on cite pas assez, c'est l'enjeu économique. Parce que en fait, mettre la main sur la Palestine, et donc du coup sur ce qui est devenu le territoire d'Israël, c'est mettre la main sur les ressources en eau. Or, on est dans une région qui souffre de stress hydrique. Et comme je vous disais tout à l'heure, le lac de Tibériade, le Jourdain, ça effectivement, donc, ce sont des réserves en eau extrêmement donc, importantes. Et c'est aussi pour ça que la mer Morte n'a jamais autant porté son nom, parce que effectivement, donc, son niveau baisse chaque année.
D'accord. Comme vous avez dit, ce conflit a des enjeux, trois, comme vous aviez précisé, politique, économique et
territorial.
Et Quelles sont les conséquences de ces conflits sur la population ou sur les deux belligérants ?
Alors, sur la population, c'est que c'est un climat de guerre endémique. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'imaginer que les personnes, enfin, les Israéliens, les Palestiniens, les habitants, effectivement, donc, de ce territoire, qu'ils soient de confession musulmane, juive ou chrétienne, puisqu'il y a aussi donc, un des chrétiens, eh bien, vivent dans un climat de guerre permanent depuis 1948. Donc, ça veut dire, pour la population civile, l'idée même d'une paix n'existe pas. Donc, voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez... récurrent. Donc, c'est aussi une prise de parti des populations. Je dirais que le meilleur exemple, c'est quand même cette guerre des pierres qui commence en 1988 par les populations palestiniennes. C'est-à-dire ces jeunes, effectivement, donc un palestinien qui vivent effectivement donc un retranché en Cisjordanie et qui lance des pierres sur effectivement donc un tsahal pour dénoncer la situation, je dirais, économique dans laquelle justement donc ils vivent, de dénuement, puisqu'on manque d'eau pour les Palestiniens. Donc c'est vraiment une armée israélienne Tsahal qui effectivement donc veille tout le temps. C'est voilà, être tout le temps sur le qui-vive et tout le temps effectivement donc la peur soit des représailles, soit effectivement donc par les incursions de l'armée, soit effectivement donc le fait des attentats suicides de la part justement donc du djihad islamique ou effectivement du Hamas. Enfin, donc voilà, un climat de guerre totalement donc endémique. Et puis, pour effectivement donc autre conséquence, c'est cette radicalisation en fait. Voilà, dans les deux cas, le fait que les Israéliens, une partie des Israéliens sont effectivement issus de la droite nationaliste, du Likoud, comme Benyamin Netanyahou, qui certes n'est plus à la tête du pays, mais qui est encore très présent. Ou effectivement donc les attentats suicides menés par le Hamas qui est largement alimenté par la Syrie et par l'Iran.
Pour clore cette interview, je voudrais vous poser une question. Quels sont les liens entre ce conflit et l'Europe? Parce que ce conflit est tout de même je ne dirais pas aux portes de l'Europe, mais assez proche. Et certains pays occidentaux se sont déjà intervenu aux côtés de ces deux belligérants.
Alors justement, alors pour l'Europe en tant que telle, c'est effectivement donc c'est un peu compliqué. Pour le rôle, je dirais que le rôle est modeste. Le rôle est modeste parce que tout simplement déjà l'Europe ne parle pas d'une seule voix. Ensuite, si on parle en termes d'institutions, l'Union européenne n'a pas d'armée. La preuve, c'est qu'elle dépend justement largement des forces de l'OTAN. Après, tout va dépendre de leur lien avec les États-Unis ou de leur lien avec justement donc un l'ex-URSS. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire qu'il y a, en 1945, lorsque je vous ai dit, il y a beaucoup justement donc de juifs qui décident de fuir l'Europe, soit ils vont en Palestine pour créer le nouvel État d'Israël, soit ils vont aux États-Unis. Et vous avez une forte diaspora effectivement donc états-unienne qui joue, et il y a un vrai lobby effectivement donc pro-israélien aux États-Unis qui va largement donc influencer. Mais je dirais que l'Europe, elle a plutôt une carte de dans le sens de comment dire de ne pas soutenir officiellement l'un des deux camps, mais d'appeler justement donc à la paix. C'est plutôt l'image de la paix qu'elle essaie effectivement donc de véhiculer, même si effectivement donc il faut bien dire qu'elle n'a pas de poids suffisant pour justement donc intervenir. Et que là, effectivement, en plus dans le contexte de la guerre justement donc en Ukraine, je dirais qu'elle est plus tournée vers ce qui se passe aux portes de la Pologne, qui est et des pays baltes qui sont donc à la limite de l'Union européenne, parce que tout le problème de l'Europe, c'est déjà sa définition. Où commence l'Europe, on sait, au niveau effectivement de l'océan Atlantique, mais où se termine l'Europe, on le sait moins. Certains parlent d'Eurasie, et dans ces cas-là, on irait jusqu'aux Kouriles, aux îles Kouriles, et donc jusqu'au bout effectivement donc de la Russie. D'autres la font arrêter, comme Pierre le Grand au XVIIIe siècle, à Saint-Pétersbourg. D'autres prennent effectivement comme limite l'Oural. C'est tout effectivement donc le problème ici. Et Israël, par contre, par exemple, par rapport au conflit en Ukraine, s'est posée en grand. Elle a proposé de recevoir les belligérants pour essayer justement donc de transiger. Voilà, c'est aussi une façon pour elle d'essayer de trouver sa place dans ce Moyen-Orient où c'est le seul État de confession juive avec effectivement tout autour des
pays de confession musulmane, même si les rivalités sont grandes entre les pays sunnites et les pays chiites. Donc voilà, je dirais que la tendance, ça serait plutôt un retour urgent de la paix, mais c'est juste, je dirais, par des paroles, parce que par des actes, les armées sont peu, je dirais, tournées vers le fait de faire la guerre. On le voit bien avec effectivement donc l'Ukraine, de ce point de vue-là. Ils sont pas d'armées pour ça.
Merci, madame Béadi.
Je remercie nos très chers auditeurs de nous avoir suivis tout le long de cette interview. Je vous conseille aussi de prendre un petit déjeuner après cela. Et je vous souhaite une agréable journée.
Merci à toi, Boubacar, pour ce travail acharné. Donc pour ce projet, nous remercions l'équipe qui nous a soutenus. Merci à Radio Campus, c'était les ados au micro. La haute voix donne de la voix. Merci pour votre écoute. Au revoir.
Les ados au micro.
Les ados.